9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, je vous souhaite un bon dimanche et je vais recevoir ce matin le cinéaste Jean-Jacques Hano pour son film Notre-Dame brûle qui sort mercredi 1h50 dans la cathédrale Notre-Dame en proie aux flammes, un film à suspense comme on n'a pas souvent l'occasion d'en voir. Et puis on s'intéressera aux surdoués, la seule minorité que personne ne songe à défendre, à part peut-être Nelly Dussault qui leur a ouvert une école, elle va nous raconter. Mais d'abord commençons par le débat sur nos institutions qui agite la France depuis quelques années. Démocratie représentative, démocratie directe. Dominique Rousseau propose une troisième voie. La démocratie continue. Dans un mois, ce sera l'élection présidentielle, puis nous voterons aux élections législatives, et puis ce sera fini. Pendant 5 ans, il y aura bien des élections intermédiaires, mais plus au niveau national. Pendant 5 ans, nous ne serons plus consultés sur la manière dont notre pays est gouverné, à part via les sondages, ce qui pose problème à de plus en plus de Français qui veulent être des citoyens et pas seulement des électeurs. Dominique Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne, président du conseil scientifique de l'Association française de droit constitutionnel. Vous vous êtes penché sur le problème et ça donne un livre, 6 thèses pour la démocratie continue, qui vient de paraître chez Odile Jacob. La démocratie continue, vous avez forgé l'expression il y a 20 ans. C'est ce que souhaitent les Français, à votre avis ?
À mon avis, oui, bien sûr. Je pense que les Français, vous venez de le dire, souhaitent que le métier entre guillemets de citoyen ne s'arrête pas aux dimanches électoraux, ne s'arrête pas à l'acte de vote, mais justement continue entre deux moments électoraux. Les citoyens ne veulent plus être des intermittents de la démocratie, mais ils veulent continuer à exercer leur métier, c'est-à-dire de participer à la fabrication des politiques publiques locales et des lois. Et on le voit bien, vous parlez, il y a l'instant, on va élire le président et puis dans 5 ans, il ne se passera plus rien à part les sondages. C'est ce système-là, je crois, qui est à bout de souffle. Je pense que la légitimité électorale aujourd'hui ne suffit plus pour fonder la légitimité des décisions. La légitimité électorale s'épuise, on le voit avec Emmanuel Macron, on l'a vu avec François Hollande, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy. La légitimité que donne l'élection s'épuise quelques mois après l'élection et les citoyens demandent à intervenir dans la fabrication des lois entre deux moments électoraux. Et c'est ce que j'appelle la démocratie continue. Et c'est ce que je crois constater quand j'observe les mouvements sociaux en France, et pas seulement en France, mais également à l'étranger.
Au fond, c'est le problème de la démocratie représentative. Elle se réduit, cette démocratie, au droit de vote. On délègue son pouvoir à un représentant élu qui peut en faire ce qu'il veut, y compris le contraire de ce qu'il avait promis. Rien ne l'oblige. Au fond, il n'y a pas de mandat impératif. Bien sûr, on peut ne pas le réélire ensuite, mais en attendant, on n'a aucun moyen d'intervenir. Encore une fois, ça s'appelle la démocratie représentative. C'est le pire des systèmes, disait Churchill, à l'exception de tous les autres.
Eh oui, sauf qu'il y en a peut-être un autre système maintenant qui est ce que j'appelle la démocratie continue. Vous avez raison de dire, la démocratie représentative, elle repose sur un principe simple qui a été clairement énoncé par Sieyès en 1789 et qui est le suivant, je le cite à peu près de mémoire, le peuple ne peut agir et vouloir que par ses représentants. Autrement dit, ce qu'on demande au peuple, c'est d'élire les représentants, et ensuite de laisser les représentants décider pour eux quelles sont les bonnes politiques publiques, quelles sont les bonnes lois, quelles sont les bonnes règles du vivre ensemble. Si vous voulez, c'est ce système-là qui, à mon avis, est aujourd'hui à bout de souffle. On veut continuer à voter, bien sûr, mais les citoyens veulent continuer entre deux moments électoraux à participer à la fabrication des lois. Vous voulez, il y a une formule populaire. Vous savez, quand on vote, souvent on dit « à qui tu vas donner ta voix ?»« À qui tu vas donner ta voix ?» Eh bien, on va donner sa voix à monsieur un tel ou à madame un tel. Et si on donne sa voix, si un citoyen donne sa voix, eh bien, il devient muet. Et c'est le représentant qui va parler à sa place. Donc nous sommes dans une démocratie où le citoyen est muet, puisque c'est les représentants qui parlent à sa place. Eh bien, aujourd'hui, je crois que les citoyens ne veulent plus être muets, ils ne veulent plus donner leur voix, ils veulent donner de la voix en disant, voilà, par notre expérience professionnelle sur le terrain, nous sommes aussi compétents pour déterminer les bonnes règles du vivre ensemble que ceux que nous avons élus.
Mais alors, comment faire pour que les citoyens concourent personnellement à la fabrication de la loi ? Ce qui s'oppose traditionnellement à la démocratie représentative, c'est la démocratie directe. Mais oui. Voilà, peut-on se passer de représentants ? Les Gilets jaunes demandaient le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et la possibilité de révoquer les élus. Ça n'est pas la solution que vous préconisez, hein ?
Non, ce n'est pas la solution que je préconise, dans la mesure où je pense que, justement, l'importance aujourd'hui, c'est de parler, hein, de délibérer. Le vote ne peut intervenir qu'à la suite d'une délibération. Et ce qui me paraît important, c'est d'imaginer les mécanismes, les procédures ou les institutions qui permettent cette intervention en continu des citoyens. Vous avez dit à l'instant les Gilets jaunes. Mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, les citoyens se réunissent soit sur les ronds-points, soit sur les places publiques. C'est pas normal. Et il faut donc trouver des institutions, et ça, l'Assemblée nationale ne peut pas jouer ce rôle, le Sénat ne peut pas jouer ce rôle, il faut trouver des institutions. Les citoyens sont en train de chercher de nouvelles institutions. Et pour l'instant, ils sont sur les ronds-points ou sur les places publiques.
Donc vous proposez une assemblée de citoyens qui viendrait s'ajouter Absolument. À l'Assemblée nationale et au Sénat et qui participerait aux délibérations et au vote des lois également ?
Absolument. Je proposerais de remplacer le Conseil économique, social et environnemental par une assemblée de citoyens tirée au sort. En gros, si vous voulez, il y aurait trois assemblées. L'assemblée qui représente les territoires, le Sénat, l'assemblée qui représente la nation, l'Assemblée nationale, et l'assemblée qui représente les citoyens, qui serait cette assemblée que j'appelle sociale, qu'on peut appeler autrement, peu importe, mais qui serait composée de citoyens tirés au sort et qui aurait donc la possibilité de l'initiative des lois et de participer à la fabrication des lois. Non pas en supprimant les élus, je ne suis pas favorable à la démocratie directe. Je pense qu'il faut des institutions. La démocratie directe, c'est une démocratie qui refuse toute idée d'institution et qui pense que le caractère spontané, direct, immédiat suffit. On voit bien aujourd'hui que le mouvement des Gilets jaunes, comme le mouvement Nuit debout, s'est épuisé parce qu'il n'a pas réussi à trouver des institutions permettant de pérenniser les revendications qu'il portait. Donc l'important aujourd'hui, je crois, c'est de trouver des institutions qui rendent compte ou qui expriment en quelque sorte l'énergie qui sort de la société.
Mais Dominique Rousseau, imaginons que demain il y ait une assemblée de citoyens qui s'ajoutent à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui a l'initiative des lois au même titre, qui participent aux délibérations, qui les votent et qui est remplie de citoyens tirés au sort. La grande majorité de la population française ne serait toujours pas incluse dans le processus. On aurait d'autres représentants encore. Est-ce que ça suffirait ?
Alors, c'est pour ça que je double la création de cette assemblée par ce que j'appelle les assemblées primaires de citoyens. C'est-à-dire, serait inscrite dans la Constitution la transformation des circonscriptions électorales en assemblées primaires de citoyens, avec l'obligation, je dis bien l'obligation constitutionnelle pour les députés, de réunir dans sa circonscription l'ensemble des électeurs inscrits afin de faire délibérer les électeurs inscrits dans sa circonscription sur les projets et propositions de loi avant qu'elles soient délibérées par les assemblées nationales. Il y aurait donc, si vous voulez, le député aurait un mandat, ce que j'appelle un mandat délibératif. Aujourd'hui, le mandat du député, il est représentatif, c'est-à-dire on lui demande de parler au nom des citoyens. Avec le mandat délibératif, le député aurait pour mandat de faire parler les citoyens, de faire délibérer les citoyens dans les assemblées plénières des citoyens et informer par les discussions, les échanges qui auraient lieu dans les assemblées plénières, de les faire remonter à l'Assemblée nationale et de faire des lois qui seraient non plus informées par les hauts fonctionnaires, par les énarques, par le Conseil d'État, par tous ces savants, mais qui seraient informées par l'expérience des citoyens au concret, sur le terrain, dans leurs entreprises, dans leurs ateliers, dans leurs campagnes, et faire remonter en quelque sorte les avis des citoyens avant qu'elles soient délibérées par les assemblées nationales.
Merci Dominique Rousseau. Je renvoie à la lecture de votre livre « 6 thèses pour la démocratie continue » qui vient de paraître chez Odile Jacob. C'est un débat qu'on aura forcément dans les mois et dans les années qui viennent.
Eh bien, avec plaisir pour continuer justement le débat.
On se retrouve dans un instant avec Jean-Jacques Haneau.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Jean-Jacques Haneau.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de La Guerre du Feu, du Nom de la Rose, de L'Ours, de 7 ans au Tibet, de Stalingrad. Et votre 14e film sort mercredi en salle. Il s'intitule Notre-Dame brûle. Tous ceux qui ont eu le privilège de le voir en sont sortis époustouflés, j'en fais partie. Et tous avaient la même question au bord des lèvres. Comment a-t-il fait? Parce que dans ce film, on est dans Notre-Dame, encore intact avec les derniers touristes. On est avec les ouvriers qui travaillent au même moment sur le toit. Puis dans la cathédrale avec les pompiers pendant la catastrophe. Comment avez-vous réalisé un tel prodige?
Mais j'ai envie de dire, c'est assez simple. Il faut voir le film dans sa tête, voir quel segment je peux tourner dans ce qui reste de Notre-Dame, quel segment je peux tourner dans une église qui a inspiré Notre-Dame ou une cathédrale qui a inspiré Notre-Dame. Pas forcément la même quand on est en voie de haut, c'est plutôt la cathédrale de Sens, parce que c'est le même dallage.
Ah oui.
Vu que la cathédrale de Sens était la cathédrale qui a inspiré celle de Paris, mais Paris est plus grand. Et pour avoir les 5 nefs comme à Paris, eh bien, j'ai tourné tous les plans d'en bas, regardant vers le haut, à Bourges.
Mais il y a aussi des décors, il y a aussi des images d'archives, il y a des maquettes, il y a des effets spéciaux numériques.
Oui, assez peu par rapport... Par rapport à ce qui est fait avec des vrais feux, le numérique vient en support, mais il ne vient pas, c'est pas l'image première. On ne peut pas dire à un pompier, là tu es devant un fond bleu, fais semblant que c'est du feu, fais semblant que tu as chaud, et puis le tuyau que tu as, fais semblant que ce n'est pas de l'air dedans, mais que c'est de l'eau. Non, attendez, pour s'identifier au personnage, pour croire à ce qu'ils font, pour aimer les personnages et vibrer avec eux, il faut faire le contraire, c'est-à-dire mettre des acteurs qui ont été formés à être pompiers devant des feux à 800 degrés, à 1m50. Et là, vous avez quelque chose qui est crédible.
Et les reliquaires, les statues, les tapisseries, les gargouilles sur le toit, l'échafaudage.
On a tout refait.
Tout refait.
Certaines images, il y a 4%. D'images de la cathédrale qui sont des archives. J'avais passé une demande sur les réseaux sociaux pour savoir si des gens avaient des images à me confier. La première semaine, on a reçu 6000 réponses, 6000 vidéos. Et je crois qu'on en est à 20 000 maintenant. Et on a choisi les images les plus significatives de ça et des embouteillages que je ne pouvais pas refaire à l'identique avec des milliers de personnes, surtout que j'ai tourné à l'époque où on devait porter le masque.
Alors c'est un film à suspense, hein, on pourrait dire. C'est l'histoire d'une star presque millénaire qui risque de s'effondrer et de mourir, que l'on tente de sauver.
Bravo, c'est absolument ça. C'est-à-dire que j'ai une vedette internationale et il n'y en a pas tellement dans le monde. Il y en a très peu qui soient aussi connus aux quatre coins de la planète.
C'est Notre-Dame.
Ben oui, c'est le bâtiment le plus visité d'Europe, hein, de façon certaine, et le sanctuaire spirituel, j'ai envie de dire, le plus connu du monde.
Vous ne vous prononcez pas sur les causes du sinistre, hein. Il y a plusieurs hypothèses, vous les laissez là. On voit que ça peut être ça, ou ça, ou ça.
Oui, et je ne m'engage pas. Je n'ai fait que mettre à l'écran ce qui a été publié, et non... démenti dans les différents articles qui ont été écrits. Je dois dire que quand j'ai découvert moi tout cet épisode abracadabran qui est le sauvetage, parce que c'est fou.
Hein, c'est absolument dingue quand on regarde le film.
C'est absolument dingue. J'ai pensé que les journalistes avaient décidément beaucoup de talent. Je me suis dit, voilà des gens qui sont journalistes, mais ils ont été formés à l'école hollywoodienne du scénario. Parce que c'était... ça demeure incroyable.
On met une heure pour appeler les pompiers et celui qui va les appeler de la cathédrale n'est pas le premier à les avoir contactés. Le premier qui les a contactés, c'est un pompier qui se trouvait en vacances à Florence.
Pas un pompier, un copain.
Un copain. Oui, c'est un copain. Un copain qui envoie une photo prise par un touriste italien.
Non, prise par quelqu'un dont le bureau était en face de Notre-Dame. Mais comme ce gars avait la réputation d'être un plaisantin, tout le monde a pensé que c'était un photomontage.
Non mais tout est incroyable. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs vont mettre un temps fou à arriver sur les lieux. Ils sont bloqués par les travaux et les embouteillages dans Paris.
Oui, ben welcome to Paris. Hein. C'est le charme de Paris.
La deuxième personne à appeler les pompiers, c'est Anne Hidalgo.
Alors elle a été, je crois, c'est ce que j'ai lu dans la presse en tout cas, la première ou une des toutes premières personnes à faire appeler les pompiers parce que personne ne croyait que ça puisse être que Notre-Dame brûle. C'est comme si on vous disait que l'obélisque brûle. Bah, vous dites c'est de la pierre. Non, une cathédrale, c'est de la pierre posée sur des arbres, d'une certaine manière. Et là, les gens n'ont commencé à appeler les pompiers que quand ils ont constaté qu'il y avait une fumée énorme et des débuts de flammes et qu'il n'y avait pas de pompiers.
Et qu'à l'intérieur de la cathédrale, personne n'avait rien remarqué à ce moment-là.
Non, l'organiste qui est dans le film était le vrai organiste. Et je lui dis, mais dites-moi, après l'alerte, quand tout le monde est sorti, je crois que vous êtes resté quelques minutes à bavarder autour de l'orgue. Ah, mais non, on est resté 20 minutes. C'est-à-dire qu'il n'entendait rien, il ne voyait rien, il ne sentait rien, il y avait un feu déjà dément dans la charpente.
Et c'est vrai que vous allez montrer ce feu absolument colossal, magnifique, on peut le dire. Il est magnifique, ce feu.
Mais si vous voulez, vous parliez tout à l'heure d'une belle actrice. Mais le principe fondateur d'un film, c'est d'avoir quelqu'un que l'on aime qui va être agressé, attaqué, avec danger de mort, par le plus charismatique des méchants. Or, quoi de plus sympathique que le feu qui nous réchauffe, qui nous permet de faire
mais
de
cuire,
mais
qui a cette taille et
mais
est
qui nous carbonise. C'est le même et que c'est un acteur phénoménal, le feu. C'est beau et c'est dangereux.
On fait une pause, Jean-Jacques Cano, on se retrouve tout de suite après.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et Jean-Jacques Cano, dont le nouveau film Notre-Dame brûle sort en salle mercredi prochain. On y voit un incendie colossal, celui de Notre-Dame de Paris, les gargouilles qui dégorgent de plomb fondu, les boulettes de bois et de plomb qui tombent sur les casques des pompiers. On a l'impression que pendant un certain temps, ce que font les pompiers, qui ne sont pas nombreux au départ, ils sont quatre, ne sert à rien. Même quand ils sont plus nombreux, les flammes sont trop grandes, trop hautes, la pression de l'eau est trop faible. On comprend presque Donald Trump, que l'on voit dans votre film, tweeter qu'il faut utiliser des canadairs.
Oui, on ne peut pas soulever les canadairs. Il faut d'abord voler très bas, ce qui est interdit à Paris, extrêmement dangereux. Et surtout, si vous déversez des tonnes d'eau sur la voûte, elle va s'effondrer. Donc,
non mais les Français ont tous compris.
Voilà. En plus de ça, il faut écoper quelque part. Vous écopez où? Dans la Seine, il y a des ponts partout. Et vous écopez où? Dans un étang, à la ville d'Avray, il y a des pêcheurs, il y a des gens qui se baignent, etc. Impossible.
Mais l'idée était stupide, mais on comprend bien que pendant un certain temps, on a l'impression que le travail des pompiers ne sert à rien.
Mais si vous voulez, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Et en fait, là où ça ne sert pas du tout à rien, c'est quand ils ont compris que la seule manière d'éteindre cet incendie ravageur, c'était d'aller au feu dans des endroits avec risque d'effondrement. Et c'est pour ça que, si vous voulez, la finale du film est, je crois, tout à fait émouvante, parce que y a des pompiers qui étaient d'accord pour risquer leur vie, pour sauver des pierres.
On voit même un sergent-chef, un peut-être de l'art, qui a sauvé carrément la cathédrale. En remontant dans le beffroi, ils sont plusieurs, ils retournent et ça marche.
Oui.
Il existe vraiment ce pompier-là ?
Oui, bien sûr. Oui, je l'ai appelé Reynald. C'est les mêmes initiales, je le connais très très bien. C'est un type formidable, qui a été décoré depuis d'ailleurs, qui est monté en grade. Il était sergent-chef.
Et personne ne connaît son nom. C'est lui le héros de toute cette histoire.
Moi, je connais son nom. Mais si vous voulez, comme les pompiers sont des gens incroyablement modestes, ils ne veulent pas être singularisés par rapport à leurs amis. Dans son esprit, il a fait son métier. Il a pris des risques. C'est son métier, c'est sa décision.
À un moment où on a l'impression que tout le monde craint que la cathédrale va s'effondrer.
Alors, ce n'est pas que tout le monde craint, c'est que tout le monde est persuadé que la cathédrale avait s'effondrer. Je connais très très bien le général Gontier, qui m'a rappelé encore il y a quelques jours, il m'a dit « Jean-Jacques, souvenez-vous bien que moi, ma préoccupation, c'était que je croyais que la cathédrale allait s'effondrer et déverser cet énorme barbecue de centaines de tonnes de braise qui allait tomber rue du Cloître et la rue d'à côté et foutre le feu à toute l'île de la Cité. » Donc c'était Paris, c'était l'île de la Cité qui était en danger. Et qu'effectivement, le noyau dur du feu, ben pour l'atteindre, il fallait monter et risquer sa vie.
Un autre suspense qui est absolument extraordinaire dans votre film, Jean-Jacques Haneau, c'est qu'à Notre-Dame se trouvait la couronne d'épines du Christ, l'une des plus précieuses reliques de la chrétienté. Elle a été achetée jadis par le roi Saint-Louis pour une somme astronomique, 135 000 livres. On dit que c'était la moitié du budget de la France à l'époque.
C'était la totalité du budget de la France d'une année de fonctionnement. Voilà. Aujourd'hui, ce serait je ne sais pas combien de 400 milliards, je crois, pour acheter cette couronne qui a foutu la France en dette.
On a construit carrément la Sainte-Chapelle hein, pour cette couronne. Mais... Bref, elle est à Notre-Dame et il fallait absolument la sauver. C'était presque aussi important que la cathédrale elle-même.
Mais pour le clergé, c'est plus important. Parce que la cathédrale, on peut la redresser. Il y a quand même pas mal d'églises ou de cathédrales qui ont été détruites pendant la guerre de 14. On les a reconstruites. Mais les reliques, non, impossible.
Et les péripéties que vous racontez pour sauver cette couronne sont absolument incroyables. Il y a la copie, puis il y a la vraie cachée dans un coffre-fort. Il faut se souvenir du code qui est dans le coffre-fort. Voilà. Tout ça est incroyable.
Tout ça, si vous voulez, est vrai, mais invraisemblable. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent « Non, là, le cinéaste est en train de nous raconter bobards. » Non, là, j'ai suivi le témoignage du principal intéressé, mais aussi de ceux qui l'ont vu. Et qui n'en croyaient pas leurs yeux. Je me souviens, le pompier que j'ai appelé Francis dans le film, mais le vrai, il me disait « Attendez, je vais raconter la chasse au trésor. » Alors il me racontait toute l'histoire parce que ça lui semblait tellement invraisemblable à lui-même.
Il ne fallait surtout pas que l'échafaudage s'effondre, ni les cloches. Notre-Dame n'aurait sans doute pas résisté.
Elle partait.
Et c'est fou parce que pour le grand public, on lui a épargné ce suspense-là.
Mais parce qu'on ne pouvait pas comprendre, si vous voulez, moi, comme les autres, j'ai vu les images qui avaient été diffusées. En fait, c'était tellement compliqué à tout expliquer qu'il faut un film d'1h50 pour faire comprendre les différents paramètres qui ont fait que le sauvetage est arrivé très en retard, que une cathédrale construite au Moyen-Âge pour des pompiers d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Les escaliers sont plus étroits que leur costume. Donc comment vous faites quand vous avez 45 kilos sur le dos, que vous montez 400 marches pour aller au feu? Enfin, c'est un truc de dingue.
Il faut qu'ils se déshabillent à certains moments.
Mais parfait, absolument, il faut qu'ils enlèvent leurs bouteilles de respirateurs, qu'ils sont au contact du feu, qu'ils risquent d'être piégés parce que ça peut s'effondrer. Non, mais c'est invraisemblable ce qu'ils ont vécu. Mais encore une fois, moi, ce qui m'a séduit, qui fait que j'ai découvert cette profession, c'est qu'ils trouvent que c'est naturel, que c'est leur devoir et c'est leur métier.
J'aurais presque envie de dire, Jean-Jacques Haneau, que vous avez réussi avec Notre-Dame brûle ce que Oliver Stone a raté avec World Trade Center. Autre film basé lui aussi sur les pompiers, sur une catastrophe, sur un lieu qui risque de s'écrouler et qui dans son cas s'écroule. Mais votre film est mieux.
Ça je ne sais pas parce que moi je connais extrêmement bien Oliver.
Moi aussi, mais ça fait rien.
Mais je n'ai pas vu son film.
Ah bon? Pourquoi? Vous aviez peur d'être influencé?
Non, pas du tout. C'est que tout simplement le hasard des choses a fait que j'étais probablement en train de travailler. Vous savez, quand je travaille sur un film, je ne veux pas être dérangé par les images des autres. Donc je reste dans ma tête, j'ai envie de dire. Et pendant des mois, je ne vois aucun film.
Une des raisons sans doute pour lesquelles Oliver Stone, quand il a fait World Trade Center, au fond, a choisi de ne quasiment pas montrer la catastrophe et de montrer des pompiers enterrés sous les décombres, c'est sans doute à la fois parce qu'il y avait quelque chose, il doit y avoir encore quelque chose de tabou à montrer les attentats du 11 septembre pour les Américains, mais aussi parce qu'il a dû se dire « je ne pourrais pas le faire ». Est-ce qu'à un moment, vous, quand on vous a proposé ce projet, vous avez dit « c'est impossible à faire » ?
Mais non, je pense, moi, que tout est possible au cinéma, absolument toujours.
Il faut dire que vous avez reconstitué la bataille, le siège de Stalingrad. Donc
oui, mais c'est ça la magie du cinéma, c'est qu'on a tellement d'outils à notre disposition, on n'est pas forcé de tout montrer. Il y a la force de l'ellipse aussi, vous savez. Vous pouvez montrer quelque chose en l'entendant, le quelque chose, sans le montrer vraiment. Il y a plein de ruses, j'ai envie de dire, cinématographiques, qui vous permettent de croire complètement à ce qu'on vous raconte, sans avoir besoin de tout montrer. Vous pouvez montrer un détail.
La chute de la flèche, par exemple.
Alors la chute de la flèche,
Alors là, monumental.
Oui, là, du coup, j'ai fait tomber 75 mètres cubes de matériaux enflammés sur le plancher de mon studio à Saint-Denis, où on avait reconstitué le centre de la nef avec les colonnes, etc. Et là, évidemment, c'était un plan très compliqué. J'avais mis 11 caméras en batterie. Il ne fallait pas la rater, la scène, parce que c'était une semaine de retard, comprenez, parce que rien que pour que le studio se refroidisse et que les braises se refroidissent, c'est plusieurs jours.
Merci Jean-Jacques Hano. Il y a donc le film à partir de mercredi en salle, Notre-Dame brûle. Il y a le livre aussi aux éditions Grune qui raconte le tournage, toutes ses péripéties, sa progression. Merci encore, c'est un film dont on va beaucoup parler. On se retrouve juste après une pause, on va parler des surdoués.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Nelly Dussos.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'école Georges Gusdorf, une école privée hors contrat que vous avez fondée il y a 13 ans pour les enfants et les adolescents précoces, ceux qui ont un QI très supérieur à la moyenne, ceux que l'on qualifie de surdoués. Et vous racontez votre expérience dans un livre intitulé « L'enfant à haut potentiel est un enfant comme les autres ». Il n'est pas tout à fait comme les autres quand même, puisque vous avez le besoin de créer une école spécialement pour lui. Ils étaient 15 élèves au départ, dont votre fils. Ils sont, je crois, 240 aujourd'hui.
240 aujourd'hui, oui, tout à fait.
Alors, est-il vraiment tout à fait comme les autres ?
Alors, il est un enfant, comme tous les autres enfants sont des enfants. Mais effectivement, il a des caractéristiques particulières qui nous ont amenés à fonder cette école. Alors, des caractéristiques cognitives et des caractéristiques affectives. Donc, c'est vrai que sur le plan des apprentissages, on prend beaucoup en compte ce qu'on appelle la pensée complexe. Donc une capacité à faire des liens et le besoin d'appréhender toutes les questions dans un contexte global. Et sur le plan affectif, on parle de sensibilité, voire d'hypersensibilité, même s'ils ne sont pas tous très émotifs.
C'est vrai qu'il y a un mystère à leur sujet. Hein. Quand on les qualifie de surdoués, vous n'aimez pas beaucoup parce que ça leur confère quelque chose de supérieur.
Oui.
Mais le haut potentiel, alors parlons d'enfants à haut potentiel ou d'enfants précoces intellectuellement, il y a un mystère dont s'emparent tour à tour les savants, les médecins, les psys, les parents. Alors vous qui les côtoyez tous les jours depuis de nombreuses années, vous qui les écoutez, qui travaillez avec eux, vous qui les aimez, qu'ont-ils en commun ?
Alors, ils ont en commun la créativité. C'est vraiment ce qui les réunit tous.
Ils sont plus créatifs que des enfants, on va dire, normaux.
Alors, oui, tout dépend de ce qu'on entend par créativité. Mais en tout cas, la créativité, c'est vraiment cette idée qui naît du lien qu'ils vont faire entre plusieurs connaissances. Et ça, c'est très spécifique et ça les réunit tous. Et ça s'exprime dans toutes les matières et ça s'exprime aussi dans la vie quotidienne, dans le regard qu'ils vont poser sur le monde, dans les questions qu'ils vont poser aux adultes, dans les interprétations qu'ils vont faire de certains phénomènes, et ce qui leur permet justement de porter un regard neuf, légèrement décentré, et de nous permettre à nous, adultes, justement, de voir les choses sous un angle un peu différent.
Qu'attendent-ils des autres, ces enfants ?
Il y a une attente très importante de l'amitié idéale, une sorte d'adéquation parfaite au niveau du caractère, au niveau des centres d'intérêt, et un besoin d'intensité dans cette relation-là.
Ils sont plus sensibles que les autres, c'est ce que l'on dit généralement.
C'est ce que l'on dit, c'est aussi ce qu'on observe, mais c'est pas seulement la sensibilité dans la relation affective, c'est la sensibilité à tout. Ça peut être une sensibilité aux odeurs, aux atmosphères, une sensibilité même, et quand on est professeur, on s'en rend vite compte, à l'humeur ou à la façon dont le professeur va se sentir ce jour-là. Et c'est vrai que là aussi, si on n'est pas transparent et cohérent, ils peuvent éventuellement nous pousser dans nos retranchements pour voir justement ce qu'il en est. Parce qu'ils peuvent percevoir un malaise et ils peuvent se sentir ou en tout cas penser être responsables de ce malaise. Donc ils voudront comprendre. Et moi en classe, j'ai souvent dit aux élèves les jours où j'étais fatiguée ou même les jours où j'étais aphone parce que c'est arrivé, je leur ai expliqué ce qu'il en était. Et à ce moment-là, comme ils sont complètement déculpabilisés, ils sont vraiment adorables. Et d'ailleurs, quand j'étais aphone, ils chuchotaient tous, ce qui était très agréable. Donc il y a énormément d'empathie. Mais encore faut-il comprendre effectivement qu'ils ont ce besoin-là et les accompagner.
Pourquoi la récréation leur pose un tel problème ? En général, pourtant, les surdoués aiment les jeux.
Nous, on a des élèves à l'école qui adorent les récréations, qui aiment courir, qui aiment se dépenser. mais il y en a aussi qui aiment regarder une petite araignée pendant la durée de la récréation et ne pas être regardés, eux, comme des bêtes curieuses parce qu'ils n'auront pas besoin d'aller jouer au foot.
C'est vrai qu'il faut leur fournir également des activités physiques quand on dirige une école comme la vôtre. Alors, ils n'ont pas forcément de prédilection pour le foot ou pour la danse.
Alors, il y en a, si.
Il y en a sûrement.
Il y en a qui adorent la danse, il y en a qui adorent le foot, et il y en a qui sont comme une poule avec une fourchette avec un ballon, qui voient passer le ballon en disant « je n'ai pas compris, il y a eu comme une faille spatio-temporelle parce que le ballon est passé entre les jambes et que le but a été marqué et qu'ils ne l'ont pas vu venir ». Donc c'est vrai aussi, on a des classes qui sont très hétérogènes dans les résultats, que ce soit en sport comme dans les autres matières.
Mais dans votre livre, vous dites que vous avez voulu les intéresser au cirque. J'ai trouvé ça assez amusant. Je me suis dit, oui, c'est vrai, au fond, j'aurais une bande de plus de 140 de QI. Le cirque, c'est pas mal.
Le cirque, c'est très bien. Alors, il y avait vraiment cette question de la confiance en l'autre et du fait de devoir compter sur les autres. Quand on est accroché dans les airs à un trapèze, très clairement, mieux vaut avoir une confiance totale dans son partenaire. Même chose quand on fait une pyramide humaine.
Donc l'amitié idéale dont vous parliez tout à l'heure, qui leur est très chère.
Exactement. Donc ça, c'était important dans le cirque. Et puis après, le cirque, c'est la souplesse. Ce sont les acrobaties, mais c'est aussi le travail de répétition. Et ils ont parfois du mal avec ce travail de répétition. Et recommencer 10 fois la même figure pour la réussir, ça me semblait important aussi comme apprentissage dans l'école.
Est-ce qu'ils respectent leurs professeurs, même quand ceux-ci n'ont pas 140 de QI ?
Alors la question du QI, les élèves la posent rarement à leurs professeurs. C'est souvent une question que les parents me posent au moment d'inscrire leur enfant, si ça fait partie des critères de recrutement. Et je leur dis que ça ne fait pas partie des critères de recrutement. Mais en fait, le respect de l'élève par rapport à son professeur, c'est un respect humain avant tout. C'est pas... Alors évidemment, il va admirer le professeur qui a beaucoup de connaissances parce qu'il aime discuter et donc ce sera une ressource pour lui.
On peut avoir beaucoup de connaissances sans avoir 140
de QI. On peut avoir beaucoup
de
connaissances. Mais la question du surdouement ou du haut potentiel des professeurs ne se pose pas. Le respect, il est dans la relation humaine. Si le professeur respecte ses élèves, les élèves respectent le professeur, il n'y a aucun problème.
On fait une pause, Nelly Dussault, on se retrouve juste après. Vous allez continuer de nous décrire ces enfants qu'on connaît mal, hein, qui restent mystérieux et que vous côtoyez toute la journée.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nelly Dussault, c'est mon invitée ce matin. Elle est la directrice de l'école Georges Gusdorf pour les enfants et les adolescents précoces. Elle vient de publier « L'enfant à haut potentiel est un enfant comme les autres » chez Fayard. Quel est l'avantage pour eux de se retrouver tous ensemble par rapport justement à une école normale, pardon d'employer ce mot, où ils seraient avec des enfants en tout genre?
Alors, ils ressentent un léger décalage dans leur centre d'intérêt, dans leur façon de fonctionner dans des écoles traditionnelles. Et ce décalage, souvent, ils ne le vivent pas comme un plus, mais comme un moins. Et il y en a beaucoup qui arrivent chez nous en ayant vraiment un grand manque de confiance en eux et un grand manque d'estime d'eux-mêmes.
Et en ayant beaucoup souffert, vous le dites.
Et en ayant, pour la plupart, beaucoup souffert. Et d'ailleurs, ils en témoignent eux-mêmes. Ils l'expriment d'ailleurs assez bien. Quand ils arrivent chez nous, ils ont moins ce sentiment de différence. Et c'est vrai que quand on est à l'adolescence, on a besoin de se construire en reconnaissant chez l'autre certains de ses traits de caractère. Et c'est plus facile, même s'ils sont loin de tout se ressembler, mais vraiment pas. On n'a pas du tout, et c'est d'ailleurs parfois l'inquiétude des parents, une école ghetto dans le sens où tous les élèves seraient des clones les uns des autres. Ils ont au contraire des personnalités assez affirmées. Mais que ce soit par le travail qu'on fait dans l'école de respect, de tolérance, d'entraide, justement, de développement de la confiance, ou que ce soit aussi parce qu'ils reconnaissent davantage de traits de caractère chez les autres, ils se sentent plus à leur aise pour être eux-mêmes, ou en tout cas pour essayer d'être eux-mêmes.
Ils aiment les super-héros, ils aiment la guerre des étoiles, ils aiment Conan le barbare. Nous, on trouve ça plutôt bébête. Eux, pas du tout, ça les fascine.
Ça les fascine, effectivement. Il y a des enjeux dans la guerre des étoiles, et même dans Conan le barbare. Alors Conan le barbare, c'est plus effectivement... la réalisation de soi et les étapes par lesquelles on doit passer.
Je rappelle que c'est un film avec Arnold Schwarzenegger.
Voilà,
qui l'avait
tout
rendu
à
célèbre
fait, quand
à
même.
Hein,
voilà. Et la guerre des étoiles. Alors là, ce serait bien trop long pour en parler dans le détail. En plus, je suis beaucoup moins spécialiste que mes élèves. Mais c'est vrai qu'il y a la question de l'élu qui se pose dans la guerre des étoiles. Il y a la question du bien et du mal qui s'affrontent. Et de qu'est-ce qu'est le gris au milieu de tout ce blanc et ce noir qui vont s'affronter. Et pour eux, ce sont des questions qui sont vraiment extrêmement importantes, pas tellement sur le plan de la morale, mais vraiment sur le plan de la philosophie et du développement de leur caractère et de la façon justement dont ils pourront éventuellement questionner la morale.
Que deviennent-ils en sortant de votre école ?
Alors leur parcours après l'école est aussi varié que les profils qu'ils ont à l'intérieur de l'école. Ils partent à l'étranger, ils vont dans des universités publiques ou privées, ils vont dans des petites écoles privées ou bien ils font des études très courtes et ils ont un métier rapidement. Ils vont souvent vers des professions qui laissent une certaine autonomie, une certaine liberté. Il y en a beaucoup dans les métiers du journalisme, de l'audiovisuel. Il y en a beaucoup aussi dans les métiers d'art. Il y en a beaucoup qui vont vers le cinéma, le théâtre. Mais on en a qui vont faire des écoles de comptabilité, la psychologie, de l'économie, de l'histoire, des sciences politiques, médecine, vétérinaire, infirmier. Vraiment, il y a de tout. Et il y a de tout et partout, avec des écoles extrêmement différentes. Puisque à l'intérieur de l'école, on accueille aussi bien des élèves qui ont des profils académiques, qui vont aller vers des parcours d'excellence comme Louis le Grand, par exemple, et d'autres qui ont des profils que certains psychologues qualifient d'artistes, on va dire, qui auront besoin d'écoles qui sont beaucoup plus dans l'interactivité, dans le projet.
Dernière question, Nelly Dussos. Comment expliquez-vous que ce soit une minorité, ces enfants à haut potentiel, que personne n'a envie de défendre ?
Je pense qu'il y a ce mystère quand même de l'intelligence. Il y a une sorte de complexe par rapport à l'intelligence. On a beaucoup de mal à se déclarer intelligent. Autant il n'y a aucune difficulté pour quelqu'un qui est en très grande forme physique et qui a des compétences physiques reconnues de dire « je suis un bon nageur, je suis un bon sportif ». En revanche, c'est très difficile de dire « je suis intelligent », voire « je suis très intelligent ». Donc je pense qu'il y a quand même au niveau de la société même un phénomène qui est que l'intelligence, le fait d'être intelligent, déclenche la jalousie. Après, c'est vrai que ce sont aussi des enfants qui nous confrontent beaucoup à nous-mêmes, parce qu'ils s'interrogent sur eux et sur nous, et que face à ces interrogations, effectivement, il faut quand même avoir un petit peu fait un travail réflexif sur soi pour être en capacité d'encaisser certaines de leurs questions. Et ils ont des questions, parfois, je vais vous donner un exemple qui est très trivial, mais ils ont des questions qui sont très directes et qui posent un sens de la vie ou un sens de la relation qui est extrêmement fort. Je me souviens une fois d'une élève qui m'a posé en français la question de savoir, puisque mon mari travaille à l'école et qu'ils savent que ça fait un certain nombre d'années qu'on est mariés, la question de savoir si vraiment, au bout de 20 ou 30 ans de mariage, le désir s'émoussait. Et donc, il a fallu que je réponde de façon personnelle. Alors, évidemment, je n'ai pas répondu à la question. J'ai donné quelques-unes de mes convictions. Non seulement ça n'avait pas de rapport avec le sujet du cours, mais en plus, on sentait que c'était une question qui lui tenait vraiment à cœur et qui était très profonde par rapport à sa façon, à elle, de s'engager dans une relation amoureuse. Et voilà, ça peut être des questions aussi déstabilisantes que ça. Clairement, un professeur qui n'y est pas préparé peut être assez perturbé dans la pratique pédagogique qu'il est censé exercer.
Merci Nelly Dussos. Le titre de votre livre, c'est « L'enfant à haut potentiel est un enfant comme les autres ». Ça vient de paraître aux éditions Fayard.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk en personne.